Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur la côté de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côté de la semaine, nous recevons ici au studio Joël Kadé-Danga. Il est avocat et journaliste indépendant. Bonjour Joël Kadé-Danga.
Bonjour Guy Maté, merci de l'invitation.
Et aussi au studio, Madame Grace Loseko Okoko, elle est avocate, elle est coordonnatrice de l'ONG Femmes, leader et compétitive, FLC en sigle. Bonjour Madame Grace Loseko Okoko.
Bonjour Monsieur Guy Maté.
Et en ligne, depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy, bonjour tout le monde.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur la côté de la semaine, l'émission qui passe en revue la côté qui a compté au cours de cette dernière jour de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur la toute la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Joël Kadé-Danga, il est avocat et journaliste indépendant. Madame Grace Loseko Okoko, elle est avocate et elle est coordonnatrice de l'ONG Femmes, leader et compétitive, FLC en sigle. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir la RDC et le Rwanda s'accordent sur des mesures concrètes pour appliquer l'accord de Washington et apaiser les tensions. Démission de Modeste Bahati-Lukwebo de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat. Et enfin, les chauffeurs de transport en commun de Kinshasa ont observé un arrêt de travail lundi et mardi. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la création du tribunal pénal économique et financier en RDC. En effet, dans une ordonnance loi signée le 14 mars 2026, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, crée un tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo. Cette juridiction spécialisée est destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite ou encore le blanchiment des capitaux. Le tribunal pénal économique et financier TPEF en sigle disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national. Son siège est établi dans la capitale Kinshasa avec la possibilité de créer des sièges secondaires sur l'ensemble du territoire national. Selon l'ordonnance, cet organe judiciaire sera composé de deux chambres, une chambre de première instance et une chambre d'appel. Il comptera au moins 40 juges, dont 20 juges de carrière et 20 juges assesseurs. Un parquet général économique et financier sera également rattaché à cette juridiction pour instruire et poursuivre les infractions relevant de sa compétence. Joël Kadé-Danga, que vous inspire la création du tribunal pénal économique et financier en RDC?
En tout cas, il y a une très très bonne chose que nous avons saluée depuis que ça avait commencé comme projet de loi par l'ancien ministre Constant Mutamba. En tout cas, nous avions attendu cela parce que c'était le souhait de plusieurs. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus pour qu'il y ait un tribunal pénal, économique et financier de telle sorte qu'on puisse poursuivre et juger les infractions dans le cadre, par exemple, de détournement, blanchiment des capitaux. Vous avez suivi que la plupart d'enquêtes que menait l'inspection générale des finances ne pouvaient pas aboutir parce que dans la plupart des cas, quand ça arrive, vous avez des magistrats qui n'ont pas l'expertise en la matière et ça posait problème. Mais là où c'est que je crains, c'est les animateurs de cette juridiction. J'ai peur que l'on fabrique encore d'autres nouveaux corrompus qui vont se faire corrompre parce que nous savons comment le système judiciaire dans notre pays évolue et sur la capacité financière qu'on doit leur accorder parce qu'il faudrait qu'ils soient éminemment suffisamment autonomes financièrement de telle sorte qu'ils ne puissent pas céder. Vous savez que ceux qui détournent, ce sont des millions. Quand vous entendez ce que l'on détourne, ce sont des millions, et quand quelqu'un peut sacrifier 1 million, il a détourné 15 millions, il a détourné 51 millions, il sacrifie 1 million, alors il faudrait que ces gens-là soient réellement intègres. Mais il y a aussi un problème de déploiement. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, il n'y a pas les TGI, les tripés n'ont pas un nombre suffisant de juges. Il y a des cas, par exemple, à Ilebo, à Louébo et à Sakania, les tripés ne savent pas siéger parce qu'il n'y a pas des magistrats. Où est-ce qu'on aura de nouveaux magistrats? Parce que la plupart des magistrats, lorsqu'on les déploie en province, ils refusent. Ils essaient de concentrer ici à Kinshasa. Ce qui pose problème. Les tribunaux pour enfants, par exemple, il a été établi qu'il y ait un tribunal dans chaque territoire. Mais aujourd'hui, ce tribunal-là, donc les cas liés aux enfants, même aux femmes, aux violences faites à la femme, aux enfants, on ne sait pas les poursuivre. Donc c'est devant les TGI, et les TGI par exemple, c'est à de très longues distances et les justiciables souffrent par manque du personnel qui puisse s'en occuper. Donc ça pose problème. Et aussi, la crainte que j'ai encore, c'est l'influence du politique sur le judiciaire. Si on peut laisser alors que ces magistrats-là puissent réellement poursuivre, mais si on laisse que les dinosaures soient couverts par les politiques, ça posera problème d'immatériel.
Merci, Gnasser Oseko Okoko. Quel pourrait être l'impact de ce tribunal sur la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption?
En tout cas, je me rallie au développement de mon confrère. Cette création du tribunal pénal économique et financier est un acte salutaire posé par les chefs de l'État, issu bien sûr de réformes majeures initiées par l'ex-ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et également, c'est une avancée juridique indéniable, est une innovation vraiment importante qui vient corriger une faiblesse historique, comme l'a dit mon confrère, du système judiciaire congolais qui a connu l'incapacité des juridictions ordinaires à traiter des dossiers financiers complexes. Alors, dans le même ordre d'idée avec mon confrère, nous demanderons seulement aux autorités compétentes de mettre toutes les énergies nécessaires pour l'installation effective et également pour le bon fonctionnement de cette juridiction. Parce que nous savons bien, les chefs de l'État avec ce qui est en train de prôner tous les jours sur l'état des droits par rapport à la justice sociale, si les animateurs comme mon confrère l'a bien dit, seraient réellement indépendants, pour qu'ils puissent bien diriger ou organiser cette juridiction sans interférence, sans politique, sans injonction étrangère, là on aura bel et bien des résultats escomptés. Mais si seulement les politiques s'impliquent, en tout cas, on ne verra pas vraiment l'importance de cette création de la juridiction spécialisée.
Merci, Madame de l'Oseko Okoko. Louis Magloire Kemayou, vous avez suivi, n'est-ce pas, les craintes qui sont exprimées ici au sujet de cette juridiction qu'on vient de créer. Quelle pourrait, à votre avis, quelle pourrait être l'efficacité d'une telle juridiction dans un contexte où les crimes économiques touchent quasiment tous les secteurs de la vie nationale?
Je pense que pratiquement tout a été dit par ceux qui se sont exprimés avant moi. On ne peut que saluer le fait que cette institution soit créée. Après, il y a au moins trois mots qu'on peut ajouter à cela. Il y a la sincérité par rapport à l'intention au moment de la création. J'aimerais que ce ne soit pas comme les démocraties que nous avons eues dans nos pays, c'est-à-dire qu'on a créé un cadre qui donne une façade démocratique pour l'extérieur et en interne, on fait ce qu'on veut. Faudrait pas que cette institution serve de cache-sexe à une pratique d'impunité qui sera couverte du vernis d'une institution qui est censée être défendre la veuve, l'orphelin et surtout l'intérêt général. À côté de ça, il ne faudrait pas non plus que ce soit un outil de répression politique qui empêche d'autres acteurs politiques simplement parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que ceux qui gouvernent de pouvoir développer leur politique et agir afin de garantir un jeu politique sain. Et puis la dernière chose, ce sont les moyens. Parce que c'est bien beau de créer des institutions, mais si elles n'ont pas les moyens de leur politique, elles en restent au stade de l'intention et malheureusement, ça ne résout aucun problème.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Tolérance Zéro des Roga Roga et on se retrouve juste après.
Hela, ma, on a écolo sa mon voilà, Roga Roga Missile, la Ningina Loba, Oye Koya, Heya. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport a mabe epai ya chef mpona baninga bakoya ki onti valeur na corruption gabeji a banir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans voix oyo elobami na te na bimiki likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, même construit les villas au 7e fin. Tout cela, avec l'argent que tu as volé à l'État, aux avènements Mouyibi. Avec les contrôleurs d'État très 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 corrompus, la République est devenue bananière, Bioubipé et Léki. Cette fois-ci, on conduit à l'objet rupturé, ouvre bien tes oreilles. Rupturé total. Mbango ya fonti ya pétrole, bosi kako détourné. Mbango ya nzete, paye kenda, soyebite. Mbango ya impôt na douane, pour verser na trésor. Mbango la mérite au sengi décentralisation totale. Trafic d'influence, et comme être mon abino. Bomela kabato, bokana kabato. Sala bato mabe, wonga na za famille à chef, wonga na za mwana mokondi, zéro, vraiment zéro. Mais ça n'a concours été, to examen pour la koko ma mwana mokondi na Congo. Yesa kaka grâce, hexe de zèle, yango ma bena Congo mokondi à lobby, rupture, rupture et total. Internet et ça m'a fait. Par un toc inutile dans ma réseau sociaux au coco Maliboma. Le ballon s'échoue sur le terrain et non dans les gradins. Arrête avec l'impunité, le Congo doit aller de l'avant. TPT production. Soki l'État et petit marché la mine de l'air. Coco Mikole Laé. Soki Bapé Sina Libanais. Obimi si xenophobie nyon solo bomba.
C'était Tolérance Zéro du célèbre guitariste, chanteur et auteur-compositeur Roga Roga. Tolérance Zéro, à travers cette chanson, Roga Roga appelle à la rupture, n'est-ce pas, avec des antivaleurs telles que le détournement des deniers publics. On revient à l'actualité cette semaine. Des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont réunis mardi 17 et mercredi 18 mars 2026 à Washington, aux États-Unis. Au terme de ces échanges, les deux parties ont convenu des mesures concrètes visant à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de Washington pour la paix et la prospérité, rapporte un communiqué du Département d'État américain publié le 18 mars. Cet accord était signé le 4 décembre 2025 par les deux pays sous la médiation du président américain Donald Trump. Parmi les principales décisions, Kinshasa et Kigali ont réaffirmé leur engagement à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État. Le Rwanda s'est engagé à un désengagement progressif de ses forces et à la levée de certaines mesures défensives dans des zones précises en RDC. De son côté, la RDC a accepté de mener des actions ciblées et limitées dans les l'État pour neutraliser les forces démocratiques et de libération du Rwanda FDLR. Les deux pays ont également insisté sur la nécessité de garantir la protection des populations civiles au cœur des préoccupations régionales. À travers ces engagements, la RDC et le Rwanda réaffirment leur volonté de construire une paix durable et une prospérité partagée dans une région marquée par des tensions sécuritaires persistantes. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité selon laquelle la RDC et le Rwanda viennent de s'accorder sur des mesures concrètes pour appliquer l'accord de Washington et apaiser les tensions. On vous écoute.
Oui, j'ai choisi ce sujet parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'important pour nous en Afrique centrale et l'Afrique de façon générale. La situation de crise entre la RDC et le Rwanda commence à ressembler à une crise qui a été oubliée par tout le monde. Et quand on a autant d'enjeux et très peu d'attention, surtout avec ce contexte dans lequel les foyers de tension internationaux qui ont le plus d'attention ne sont pas situés en Afrique. Vous avez cette histoire de l'Iran avec Israël et les États-Unis, pour ne citer que celui-là qui aujourd'hui accapare toute l'attention des acteurs internationaux. Les Africains sont obligés entre eux de trouver des solutions à leurs problèmes. S'ils ne trouvent pas, nous serons dans une guerre fratricide dont personne ne sortira gagnant. Et c'est très clairement pour cette raison que j'ai choisi de parler de cette situation, parce que aujourd'hui, la crise entre la RDC et le Rwanda ne se limite plus aux deux pays. Elle implique les différents médiateurs qu'il y a eu. Le Togo aujourd'hui est médiateur, mais avant le Togo, il y a eu l'Angola, il y a eu le Kenya, il y a eu de nombreux médiateurs qui se sont proposés pour trouver une solution de sortie de crise, mais aucun n'a trouvé de grâce aux yeux des deux acteurs en même temps. Et donc, il est important que les acteurs eux-mêmes trouvent une formule qui permette de régler le problème et de faire que les populations arrivent à cohabiter dans un espace où le rêve de faire la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, ne soit pas qu'une illusion, que ce soit véritablement un rêve qui débouchera sur les États-Unis d'Afrique tel que l'avaient rêvé les pères fondateurs de l'Union africaine, qui était l'Organisation de l'Unité africaine au départ. Donc, j'ai vu par exemple la candidature qui ne va pas être retirée de la RDC à la francophonie, alors qu'il y a déjà une candidate qui est, enfin, il y a une secrétaire générale sortante qui est rwandaise. En termes de chances de réussite pour la sous-région, forcément, les voix sont dispersées et la dynamique que pourrait emmener l'élection d'une secrétaire générale ne serait pas la bonne. Que Louise Mushikiwabo soit maintenue ou que Mme Lumumba soit élue, on aura quand même un problème de cohésion régionale. À côté de ça, quand depuis 1996, on a deux pays qui se regardent en chaîne de faïence et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, il faut interroger l'efficacité des organisations régionales, interroger l'efficacité de l'Union africaine, mais surtout interroger la bonne volonté des deux acteurs en présence.
Oui, justement, Louis Magloire Kemayou, les deux pays viennent de prendre des engagements mutuels. Le Rwanda s'engage à un désengagement progressif de ses forces et la RDC accepte de mener des actions ciblées et limitées dans les temps pour neutraliser les FDLR. Et on sait que ce n'est pas la première fois que ces deux pays prennent de tels engagements, mais à votre avis, quelle est la nouvelle donne qui peut faire que cette fois-ci, ces engagements puissent être respectés?
Je pense qu'il y a l'usure du temps déjà. À un certain moment, il y a l'usure du temps qui fait que les acteurs ne sont plus capables de se battre avec la même énergie qu'au début. Après, il y a le fait que la tension est de moins en moins portée sur les acteurs. La possibilité d'avoir une oreille attentive auprès de l'Angola, auprès du Togo, auprès de n'importe quel autre acteur, cette opportunité-là, elle s'amoindrit avec le temps. Et donc, quelque part, il faut continuer de vivre et, si possible, vivre en paix.
Merci. Merci, Joël Kadedanga, avocat et journaliste indépendant. Quelle lecture vous faites des engagements mutuels que la RDC et le Rwanda viennent de prendre à Washington?
Vous savez, Guy Mathieu, à un moment donné, il faudrait que l'on arrête avec l'hypocrisie. L'hypocrisie dans la mesure où, aujourd'hui, on parle de la neutralisation de FDLR. Les FDLR, c'est depuis 1994 qu'ils ont quitté le Rwanda, qu'ils ont été chez nous, et ils ont été neutralisés en 1996 lors de l'entrée de l'AFDL. Ils ont été neutralisés lorsque le RCD est entré en 1998. Ils ont été neutralisés tout ce temps ici depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. C'est le Rwanda qui contrôle l'est de la RDC où il est censé avoir de FDLR. Mais s'ils ne les ont jamais neutralisés, ils se trouvent où? Parce qu'aujourd'hui, on les a localisés tous. Ils sont dans les zones occupées par le Rwanda. Mais pourquoi ils ne peuvent pas le neutraliser? Supposons un FDLR qui avait 20 ans en 1994. Aujourd'hui, il a quel âge? Et quelle est la capacité? Dites-moi un seul jour où les FDLR ont été une seule fois une menace pour le Rwanda, une seule fois. Donc ça n'a jamais été le cas. Donc on doit arrêter avec cette hypocrisie. Et la RDC, autant qu'il faut continuer à être sur l'étape des négociations, je suis internationaliste, je ne veux pas le refuser, mais il faudrait qu'à un moment donné que l'on puisse réorganiser notre armée. Guimaté, depuis qu'on a arrêté tous les généraux ici spécialistes dans les replis stratégiques, vous avez appris qu'on a encore conquis une seule cité par le Rwanda à travers ce supplétif du M23 et de l'AFDC, de l'AFC, excusez-moi. Donc, il n'y en a pas. Donc, le vrai problème, le Congo, nous devrions rebâtir une armée. Regardez le Rwanda, regardez la RDC. Même si on mettait une seule province contre le Rwanda, même juste le Nord Kivu, le Rwanda ne peut pas nous battre. Mais le vrai problème ici, ce sont les Occidentaux, notamment les Américains qui avaient commencé cette guerre, Tony Blair, Bill Clinton, oui, qui avaient commencé cette guerre pour l'exploitation illicite de nos matières. Comment est-ce que le Rwanda exploite, est grand producteur du coltan qui ne sort pas de son sol? Vous avez de l'or que le Rwanda exporte, vous avez de l'or que l'Ouganda exporte. Je crois que nous avons l'obligation, nous, la RDC, de préparer cette guerre, d'inviter, par exemple, les experts en balistique, les fabricateurs des armes que nous avons tous chez nous. C'est nous qui avons mis la fin à la Deuxième Guerre mondiale, avec nos minerais. Je crois qu'il y a lieu que nous puissions mettre utile nos minerais pour préparer cette guerre et le temps qu'elle puisse nous prendre jusqu'à ce que nous allons bouter le Rwanda dehors.
Vous avez évoqué la question des FDLR. Vous rappelez, n'est-ce pas, que les Rwandais, en fait, les FDLR sont dans des territoires qui sont contrôlés par l'AFC M23, par les Rwandais, et les Rwandais sont entrés plusieurs fois chez nous pour neutraliser ses forces, et il n'est jamais parvenu à les faire. Mais les grands problèmes aujourd'hui, c'est que la RDC connaissait tout ça, mais elle a quand même pris l'engagement de neutraliser ses FDLR, et c'est devenu même une épine sous les pieds de la RDC. Comment on va sortir de ça?
Non, c'est tout ce que je dis. Vous avez vu quand le fils Abiyarimana est venu ici, j'ai vu Kagame s'agiter et dire que non, c'est un FDLR. Est-ce que le fils d'Abiyarimana, c'est un FDLR? Non. L'FDLR dont le Rwanda a besoin chez nous et qu'il faut neutraliser, ce sont nos minerais. Dites-moi, vous êtes historien du présent, nous sommes avec vous sur terrain, nous avons été avec vous sur terrain pendant plusieurs années dans la presse, avant que je ne puisse rejoindre ma nouvelle profession. Mais dites-moi, quel est un seul jour où le Rwanda a été attaqué par l'FDLR? Un jour où les FDLR ont tué un seul Rwandais. Mais l'FDLR tue chez nous, pille chez nous, viole chez nous. C'est à ce niveau-là où je voudrais que l'on arrête avec les discours d'hypocrisie, que nous puissions nous préparer bien pour cette guerre et que le président puisse préparer la RDC à concevoir dans que chaque Congolais conçoive que nous sommes en guerre et cette guerre ne pourra finir que lorsque nous allons vaincre le Rwanda.
Merci Madame Grace Loseko Koko, avocate et coordonnatrice de l'ONG Femmes Leader et Compétitive FLC. À travers ces engagements, la RDC et le Rwanda réaffirment leur volonté, n'est-ce pas, de construire une paix durable et une prospérité partagée dans une région marquée par des tensions sécuritaires persistantes. Et ce ne sont pas, une fois de plus, des déclarations verbales qui n'auront aucun effet sur le terrain des hostilités, Madame Grace Loseko Okoko.
Une fois de plus, pour embrasser l'argumentaire de mon confrère Joël Kadé, je dirais c'est bien bon de prendre les engagements entre les deux pays, de se prendre en charge, d'être conscient qu'il s'agit de notre engagement, de notre responsabilité, de remettre la paix à l'est du pays. Mais moi, je pense qu'il faudrait y avoir un peu de préalable. Oui, engagement. À mon humble avis, en tout cas, je demanderais au Rwanda de demander à leur acolytes de quitter les terres congolaises, de quitter l'est de la RDC, le nord et le sud Kivu comme préalable. Parce que là, ils veulent nous faire croire qu'ils ont eu maintenant cette bonne volonté de remettre la paix, mais par quel mécanisme? Donc, en tout cas, pour que je ne sois pas pour la guerre en RDC, je demanderai au Rwanda de faire preuve de la bonne volonté. S'il n'y a pas malignité derrière, qu'il commence à recommander, à donner des injonctions à tous les FDLR, que ce soit FDLR, que ce soit
les M23,
de quitter les sols congolais et à là, on pourra voir autre chose évoluer ensemble dans ce sens.
Merci. Oui, allez-y.
Une seule seconde. Juste pour dire, ces FDLR dont Kagame parle toujours, quand ils sont renvoyés au Rwanda, ils les recyclent, ils les renvoient sur notre sol. C'est tout ce qui est fait. C'est pourquoi j'aimerais que l'on arrête avec cette hypocrisie sur les FDLR, parce que ça n'existe pas. Il faut qu'on se le dise, ça n'existe pas.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le jeudi 19 mars, c'était la date anniversaire de Simon Lutumba Ndomanueno, surnommé Lutumba Simaro Masia, ce célèbre guitariste, auteur-compositeur congolais. Le poète Lutumba Simaro Masia est né le 19 mars 1938. Il est malheureusement décédé le 30 mars 2019. À l'occasion donc de cet anniversaire de naissance, nous allons écouter l'un de ses classiques intitulé Melesi Bapesa Nambwa, sorti en 1986 dans l'album Testament et Aboule et dans l'orchestre Ok Jazz. On écoute donc Melesi Bapesa Nambwa du poète Lutumba Simaro Masia avec la voix de Madilou System et on revient juste après.
Yeah.
Dans cette émission, regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la création du tribunal pénal économique et financier en RDC. Nous avons également analysé cette actualité sur la RDC et le Rwanda qui viennent de s'accorder sur des mesures concrètes pour appliquer l'accord de Washington et apaiser les tensions. Participe à cette émission Joël Kadedanga, il est avocat. Madame Edgas Loseko Okoko, elle est avocate et coordonnatrice de l'ONG Femmes Leaders et Compétitives FLC. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais. Il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Modeste Bahati Lukwebo a démissionné de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat. Cela est intervenu quelques heures après la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner la pétition déposée contre lui par un groupe de sénateurs qui l'accusaient d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Des allégations rejetées par son camp politique. Pour rappel, une pétition contre Bahati Lukwebo a été déposée lundi 16 mars au bureau du Sénat. C'est après ses prises de position contre un éventuel changement de la Constitution. Cependant, le sénateur Danny Kabongo, l'initiateur de cette démarche, a précisé que cette pétition n'avait aucun lien avec la position récemment exprimée par Modeste Bahati au sujet de la révision de la Constitution. Les pétitionnaires l'accusaient plutôt d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions. Joël Kadedanga, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler de cette démission de Modeste Bahati Lukwebo, de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat. On vous écoute.
Bon, je crois qu'il a pris ses responsabilités au lieu de se faire ridiculiser devant la commission et devant la plénière du Sénat, étant donné que les carottes étaient déjà cuites pour lui et les sorts étaient jetés depuis qu'il a commis un peu cette bourde. Il avait organisé sa conférence de presse, il n'avait rien à voir avec le changement de la Constitution ni la révision de la Constitution. Mais un journaliste lui a posé la question, c'est là aussi, nous en appelons à un encadrement des politiques par les experts en communication. Vous avez organisé une conférence de presse sur un sujet, il y a une question qui vient au hasard, c'est prévalent de son droit à la liberté d'expression, il a émis son point de vue.
Et son point de vue. Mais vous qualifiez cela de bourde. Pourquoi bourde?
Bon, une bourde parce que, vous savez, Goma est tombé. Bahati n'a dit mot. Et quand Goma tombe, il sollicite un ordre de mission pour aller se faire soigner à l'étranger. Déjà, ça posait des petites suspicions dans le chef de ses partenaires au sein de l'Union sacrée. Bukavu tombe.
Mais les rapports entre son état de santé et la chute de Goma, c'est à quel niveau?
Non, les gens ont cru qu'il cherchait à fuir. Parce que d'ailleurs, quand Goma est tombé, la plupart des dignitaires avaient quitté le pays. Beaucoup avaient quitté Guimaté. Beaucoup avaient quitté parce qu'ils pensaient, comme Nanga l'avait dit, qu'au mois de mars de l'année passée, il allait déjà tenir un meeting au stade de Martyrs. Et donc, quand Goma est tombé, quand Bukavu est tombé, tout le monde, toutes les familles des grands dignitaires étaient partis en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Et c'est quand la situation s'est stabilisée. Alors, moi, je crois, c'est parce que le DG, je crois, de Bralima a dit qu'il a départ d'un Bralima qui est à Bukavu, qu'il a voulu se justifier. Mais à un certain moment, comme je le connais sage, il se serait tué. Et surtout sur cette question, parce qu'il sait que le chef de l'État seul avait initié donc cette réflexion sur la révision ou le changement de la Constitution. Mais pour ma part, vous savez que c'est depuis 2008 que je me bats, moi, pour la révision de la Constitution. Déjà, en 2008, nous nous sommes battus. En 2015, c'est pas par rapport à Tshisekedi. Mais je crois que les gens aussi de l'Union sacrée sont allés un peu plus loin pour lui dénier cette liberté d'expression. Et ça biaise un peu. Et c'est comme si on est en train de préparer un lit à la dictature par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc parce que si on refuse qu'il y ait de points de vue divergents, même au sein de la famille, et pourtant le président de la République a parlé de la vitalité politique, démocratique, quand il y a des divergences au sein de son parti. Mais pourquoi quand Bahati émet son point de vue, en tout cas, il doit tomber. Là, ça pose encore un petit problème. Mais sinon...
Mais est-ce que ce n'est pas le contexte politique qui explique tout ça?
Non, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une bourde. Étant donné que le leader de votre famille politique, le président de la République, a déjà levé cette option, et que vos partenaires au sein de l'Union sacrée sont tous déterminés, soit au changement ou à la révision de la Constitution, et que vous vous disiez que nous n'avons pas un problème de texte, nous avons un problème d'homme. Et pourtant, cette Constitution, quand vous la regardez, elle est hyper institutionnalisée. Vous avez trop d'institutions. Et les belligérants avaient convenu de s'accorder des places à leurs femmes, leurs enfants, et ainsi de suite. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et quand vous regardez, par exemple, lui-même, Bahati, toute sa famille est bien casée. Donc, sa famille, au sens biologique, strictement restreinte, tout comme au sens élargi. Et donc, cette Constitution, de mon point de vue...
Mais vous l'avez relevé, l'Union sacrée est allée quand même trop loin, hein, n'est-ce pas, dans la...
Non, c'est ce que je dis, les positions prises, et par exemple, on lui reproche d'être incompétent. Non, mais ça ne passe pas quand même. Il n'est pas président du Sénat. Il a été président du Sénat pendant plus de 3 ans. Bon, c'est là où on pouvait le traiter d'incompétent. Mais il a dirigé cette chambre et qu'au... Il a été ministre plusieurs fois, c'est depuis 1998, je crois qu'il est ministre, qu'il est... s'il n'est pas ministre, il est... Quelque part, il est PCR de la SONAS, et ainsi de suite, donc il n'a jamais été chômé. Donc on le traite aujourd'hui d'incompétent, je crois qu'il se soit un peu trompé, mais sinon, on a un peu bafoué son droit à sa liberté d'expression, mais qu'il ait démissionné. Mais je crois, comme c'est Maradona, comme on l'appelle, certainement qu'il va dribbler et qu'il va rebondir.
Pourquoi Maradona?
Non, mais il a toujours dribblé. C'est, vous vous rappelez, sous Kabila, ils avaient créé un courant au sein de la majorité présidentielle. Lui, Kamitatou, je crois encore, ils étaient à 4 ou 3, ils avaient créé un courant au sein. Mais il a rebondi. On a cru que c'était fini et par la suite, il a rebondi. Merci. Bon, on espère qu'il va encore rebondir.
Merci, Madame Grace Loseko Coco. Justement, est-ce que vous comprenez ces glissements? Les personnes qui ont attaqué Bahati après ses propos, ils sont passés des accusations relatives, n'est-ce pas, à ses propos sur la révision de la Constitution, aux accusations sur son incompétence. Est-ce que vous comprenez ces glissements-là?
En fait, politiquement par là, ils ne peuvent pas faire cette déclaration, un grief pour les faire passer, en fait. Donc, parce que s'il s'agissait de l'incompétence, ils auraient plutôt initié cette pétition avant cette déclaration. Donc c'est juste, si je peux dire, un dilatoire, un prétexte. Voilà. Et puis, nous saluons également cette attitude de démissionner parce que là, le vice-président du Sénat ne sait plus à quel sens s'avouer, surtout avec ses désavés de son propre parti politique et l'évolution et la vitesse que prend cette démarche de pétition. Il a bien fait d'aller tête haute.
Louis Magloire Kimayou, quel regard avez-vous de l'homme d'où vous intervenez, de cette démission de Modeste Bahati Lukwebo de ses fonctions de deuxième vice-président du Sénat?
Je pense que quand un acteur mesure l'ampleur des difficultés qu'il a à exercer son métier, il n'y a que 2 issues possibles. Soit, s'il est réaliste, il démissionne, soit s'il va dans le combat, il essaie de résister, ou alors il négocie. Si véritablement il veut se maintenir à son poste, et je trouve courageux de sa part d'avoir accepté de quitter la fonction, vu qu'il ne pouvait plus être productif dans le contexte qui est le sien aujourd'hui, et surtout dans le contexte sociopolitique de l'institution dans laquelle il évolue. Donc il a pris la mesure de la situation, et il a, de mon point de vue, adopté la solution qui est la plus réaliste.
Et vous, depuis l'étranger d'où vous intervenez, comment vous percevez la chose? Est-ce que ça permet au pays d'avancer sur le plan démocratique, ou c'est plutôt un recul?
Non, c'est plutôt quelque chose de sain. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où, à un certain moment, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République, avait affaire à Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et chef de la majorité. Et il n'arrivait plus à s'entendre sur un certain nombre de choses. Il a bien fallu trancher. Il y avait la menace d'une pétition pour déposer Guillaume Soro. Et Guillaume Soro a préféré partir avant qu'on en arrive à cet extrême-là. Je pense que ça permet à chacun de comprendre que par moment, quand il y a des blocages, si vous n'êtes plus le bienvenu à la table, vous devez partir.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Grande Dame de Les Karmapas et on se retrouve juste après. C'était Gandam avec le Karmapa. Le Karmapa, un des artistes et musiciens congolais qui continue à pérenniser la rumba à travers ses chansons. Je rappelle que nous avons dans cette émission Joël Kadedanga, il est avocat. On a Madame Grace Loseko Okoko, avocate, elle est coordonnatrice de l'ONG Femmes Leader et Compétitives, FLC. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis-Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de la formation africaine. Le lundi 16 mai au matin, la circulation a été fortement perturbée à Kinshasa. De nombreux habitants ont peiné à rejoindre leur lieu de travail, certains contraints de parcourir de longs trajets à pied. En cause, un arrêt de service déclenché par les conducteurs des taxis et taxibus qui protestent contre les tracasseries excessives de la part des agents des régulations routières. Mécontents des contrôles imposés par l'hôtel de ville, jugés abusifs et source de tracasseries, les chauffeurs ont décidé de suspendre leurs activités. Selon Kakule Kimbula, bienvenue, président de l'association des chauffeurs, cette décision fait suite à des alertes lancées depuis une semaine. Les chauffeurs s'est lamenté par rapport au comportement de cette équipe déployée sur le terrain, aux abus commis vis-à-vis des conducteurs, mais aussi à l'incivisme qui les caractérise. Nous avions saisi nos autorités compétentes, mais aucune réaction n'a suivi. Les chauffeurs eux-mêmes ont voulu qu'il y ait un arrêt des activités, explique-t-il. Il dénonce également la multiplication des obligations imposées aux conducteurs. Autour du chauffeur, on a créé beaucoup de services. On veut imposer au-delà des permis de conduire une carte professionnelle. Il y a plus de 10 éléments qu'on est en train d'imposer aux chauffeurs, a-t-il ajouté. Madame Gasloseko Koko, vous avez souhaité justement nous parler de cet arrêt des services observés par les chauffeurs de Kinshasa lundi et mardi dernier. On vous écoute.
Merci une fois de plus, M. Guy Maté, pour la parole accordée. Vous savez, la grève observée récemment par les chauffeurs des transports en commun à Kinshasa n'est pas un simple fait isolé, même pas un mouvement d'humeur passager. Elle s'inscrit dans un contexte plus large, révélateur même des tensions économiques, sociales et pourquoi pas également institutionnelles qui méritent une lecture approfondie. D'abord, en tant qu'analyste et politique, il faut comprendre que ce type de mouvement traduit souvent un déséquilibre entre les politiques publiques et les réalités du terrain. Le secteur du transport urbain à Kinshasa reste largement informel, avec une régulation parfois perçue comme fluctuante ou contraignante. Lorsqu'un arrêt de travail survient, il est souvent des symptômes d'un malaise accumulé, comme les cas des tracasseries excessives, administratives, du hausse des taxes, des pressions et tracasserie policière, comme l'a dit le vice-président de la CECO, même la présence des phares d'essai dans la régulation de la route les dérange également, parce que les phares d'essai sont beaucoup plus brutales que les policiers de la circulation routière. Ce sont autant de facteurs qui, une fois combinés, fragilisent un secteur qui est déjà précaire. Ensuite, il est important de rappeler que le droit des grèves est un droit fondamental garanti dans notre Constitution. Mais toutefois, ces droits s'exercent dans un cadre également bien précis. La question qui se pose ici est celle de la structuration du mouvement. S'agit-il d'une grève encadrée par des organisations professionnelles reconnues ou d'un mouvement spontané? Là, je reviens encore le VP de la CECO, le vice-président, qui a dit qu'ils sont réellement également victimes de ces tracasseries, mais eux n'étaient pas intéressés ou inquiétés dans ces mouvements de grève du lundi. Or, il y a un autre mouvement syndical, en fait, donc, qui se sont dispersés. Pour dire que cette distinction est essentielle, car elle conditionne la légalité du mouvement, mais aussi sa capacité à produire des résultats concrets dans les dialogues avec les autorités. Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'impact direct sur la population kinoise à Kinshasa. C'est une ville où la mobilité dépend fortement des transports communs privés. Une paralysie, même partielle, peut toujours endommager et causer des conséquences immédiates. Difficultés d'accès, perturbation des activités économiques, hausse opportuniste, parce que quand une majorité de bus ne sort pas, et celles qui sortent major ou double les coûts. Donc c'est aussi une conséquence néfaste de la grève. Enfin, cette situation devait être une opportunité pour repenser en profondeur les secteurs du transport urbain à Kinshasa. Il ne s'agit pas seulement de gérer une crise ponctuelle, mais d'engager des réformes structurelles, entre autres la formalisation du secteur, l'amélioration des conditions de travail, la clarification des taxes et rédevances et surtout la mise en place d'un véritable dialogue entre les autorités et les acteurs du transport. En conclusion, cette grève est moins un problème à condamner qu'un signal à écouter.
Merci. Moins un problème à condamner qu'un signal à écouter. Louis Magloire Kemayou, justement, au-delà de tout ce que les chauffeurs sont en train de dénoncer, notamment les tracasseries, il y a un fait qui est constaté dans ces pays, c'est que l'État congolais n'a pas de société de transport et ça pose un problème sérieux. Et les gens sont, n'est-ce pas, inféodés aux caprices, n'est-ce pas, des privés. Et vous avez suivi Madame Grace Loseko Koko qui pense que cet arrêt de travail doit constituer une opportunité pour voir savoir comment repenser les secteurs des transports, pas seulement à Kinshasa, mais en RDC. Comment vous réagissez à tout ça, Louis Magloire Kemayou?
Je pense que l'État doit jouer son rôle. L'État est là pour créer un cadre qui permet à chacun de vivre convenablement. Ce n'est pas l'investisseur principal. En revanche, quand on dit que l'État doit créer le cadre, c'est que je me souviens de mes derniers voyages à Kinshasa. L'état des routes ne permet pas de développer un transport digne de ce nom. Vous achetez une voiture neuve, je ne sais pas combien de temps il vous faudra pour l'amortir, mais pour qu'elle se soit complètement démolie, il vous faudra très peu de temps. Et donc, l'obligation de l'État, c'est déjà de proposer des routes en bon état. Une fois qu'il a fait cela, il doit créer un cadre qui permet aussi, non seulement à ceux qui sont dans cette profession-là, d'être capable de rentrer dans leurs fonds, mais à la population d'en avoir pour son argent. Je le garde, je ne veux pas faire de comparaison déplacée, mais quand vous prenez le système de route en Côte d'Ivoire, par exemple, même s'il y a des embouteillages aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de voitures, mais un effort a été fait pour densifier le nombre de routes construites et surtout d'entretenir celles qui existent déjà. Et ça, c'est la première chose qui permet d'encourager les gens vers l'achat de voitures et la pratique de prix qui soit accessible aux uns et aux autres. Après, si vous dites aux particuliers, l'État peut vous donner des facilités pour créer des compagnies de transport et qu'il peut peut-être vous prêter de... Je ne sais pas, c'est comme pour le système des péages pour la route. Vous vous engagez et l'État s'engage à ce que vous en ayez pour votre argent au bout d'un certain nombre d'années. Si quelque chose de ce type-là se met en place et qu'à côté de ça, les policiers qui sont censés réguler la circulation ne se transforment pas en dealers qui vont voler de l'argent aux transporteurs et à tous les autres usagers de la route simplement parce qu'avec l'usage de leur tenue et de leur arme, ils sont capables d'arriver à leur fin, je pense que cela fluidifiera les choses et tout le monde sera tranquille.
Merci, Joël Kadé-Danga. Nous allons finir cette émission avec vous. Vous avez suivi le président de la SECO qui parlait des 10 documents qu'on exige aux chauffeurs. Au-delà, il y a cette question de comment faire pour qu'on ne puisse plus résoudre ce genre de situation. Madame Grace de SECO l'a dit, cette situation qui a été créée par les chauffeurs lundi dernier serait, n'est-ce pas, une interpellation à l'endroit du gouvernement pour trouver des solutions durables. Qu'est-ce que vous proposerez pour que l'on ne puisse plus, n'est-ce pas, déplorer ce genre de situation dans cette ville de Kinshasa et à travers le pays?
Bon, je crois que le diagnostic posé par mon confrère, Maître Grasse, est autant interpellateur et qu'il nous ouvre même de voies pour des solutions à votre question. Ça veut dire que, ici, il appartient d'abord à l'État de définir sa politique publique en matière de transport. Aussi longtemps, vous l'avez dit à Louis Magloire Kemayou, vous l'avez dit et il venait de le dire, cette politique publique de transport devrait d'abord, un, qu'on mette en place les routes. Il n'y a pas de routes à Kinshasa. Et de deux, que l'État ait ses propres sociétés de transport. Mais il y a eu trop de projets qui ne transportent, tout ça, mais ça ne répond pas. Je crois qu'il y a lieu que l'État puisse investir dans ce secteur. Si vous êtes incapable, nous sommes dans un moment où on peut ouvrir le secteur au privé, donc qu'on crée une société privée, État avec le privé, gouvernement et privé. Vous avez des grandes
sociétés.
Oui, un partenariat public-privé. Vous avez des grandes sociétés. Quand vous allez en Tanzanie, vous allez ici en Ouganda, vous voyez des grandes compagnies. Mais pourquoi ne pas négocier avec ces compagnies-là pour organiser le transport en commun dans notre pays? Quand vous partez, toutes les fois que je pars à Entebbe pour Kampala, donc toutes les fois que vous arrivez, vous voyez qu'on crée de nouvelles routes. Mais chez nous, bon, heureusement, j'ai vu un peu la politique mise en place par le président de la République, le gouverneur, quand même de mettre en place des routes secondaires avec un peu bétonnées. Ça peut résoudre ce problème-là. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas de propres moyens de transport de l'État, donc l'État ne saura pas. Parce qu'à Kinshasa, les transports en commun est pris en otage par les privés. Mais qu'est-ce que j'ai constaté, Guy Maté? C'est l'incivisme des chauffeurs. Et j'ai constaté, quand ils ont fait la grève, je suis parti de chez moi, j'ai fait pratiquement 5 minutes jusqu'au palais de justice. Et donc, je me suis dit que non, tout ce que nous bah, d'abord, même pendant que l'on a commencé
minutes, le contrôle... Il n'y avait pas d'embouteillage.
Il n'y avait pas d'embouteillage. Donc, même lorsqu'il y a eu le contrôle, quand les contrôles ont commencé dès le départ, quand les contrôles ont commencé, en tout cas, j'appelle les autres les sans-papiers. Mais vous pouvez rouler jusqu'à Lemba sans problème, le boulevard c'est vide. Donc, la conclusion, c'est que donc nous avons des gens qui n'ont pas la culture de payer les taxes, de payer les impôts. Et en conséquence, tous les bus que nous avons sur la route, ce sont des bus irréguliers, ce sont des voitures irrégulières. Et c'est là où...
Mais ils ont toujours avancé la raison selon laquelle, même quand ils ont payé ces taxes-là, on ne voit pas le travail qui est fait par ces taxes, parce que c'est beaucoup d'argent qui devait aussi, n'est-ce pas, contribuer à réhabiliter les routes, mais cela ne suit pas.
Là, le problème se pose de l'héritage de Kimbuta et de le gouverneur qui venait de sortir, que Mumba a
remplacé.
Ils ont contracté des dettes à travers les banques, ce qui fait que les vignettes telles qu'on verse de l'argent là, donc ce sont les dettes contractées depuis 2012, depuis 2013, depuis 2015, et on est en train de payer ces dettes. Et c'est sur plusieurs années. Et en conséquence, on ne peut pas produire, vous ne pouvez pas voir les effets de ce que l'on verse, parce que ce que l'on verse là, c'est pour apurer les dettes contractées par les anciens gouverneurs en vue de permettre à ce que l'on investisse nouvellement aujourd'hui. Ce qui pose un sérieux problème. Mais le mal fait par le gouvernement provincial, c'est de concentrer tous ces papiers, permis de conduire, contrôle technique, vignette, livret de autorisation de transport. Donc, en un seul moment...
Assurance.
Non, assurance. Donc, en un seul moment, ça coûte au moins 500 $60. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui doit dépenser pour le permis $130, contrôle technique, et les filles, le contrôle technique, là, Guillaume, j'ai constaté, ce n'est même pas le contrôle technique, parce que moi-même, j'ai amené ma voiture, j'amène...
On vous vend un document. On ne check pas les véhicules.
Donc, il est tout simplement monté. Bon, après, moi-même, je savais que j'avais des problèmes mes pneus, ma colonne, ça posait problème. Mais on me dit que non, c'est correct, vous pouvez partir, on vous donne. Donc, c'est cette concentration ici qui pose problème, mais nous en appelons quand même aussi aux chauffeurs, aux propriétaires des véhicules, de se mettre quand même en ordre, parce que c'est avec cet argent-là que l'on construit les routes, que l'on met l'électricité, que l'on met en place le moyen pour la fourniture en eau potable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Grâce Loseko Okoko, Louis Magloire Kemayou et Joël Kadé Danga. Merci aussi à Paul Bajanyama qui était à la technique avec la participation de Dieu Nyangasa. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Vaccination, une autre composition du poète Lutumba Simaron Massia, sortie en 1986, extrait de l'album Testament et Aboulé, dans l'orchestre Ok Jazz. Et on se retrouve le samedi prochain.
Na bimi po na landayo, de la ya buso na kovanga na kome. miti na matete na miblanche edo amoni yote na zongi na kolela likambo te beya decision yo zui na ena pasi mokoleza li okoluka ngai ekozala trotar nga na nsina bosa na yo mokili ngai na yaka ngai napesi ngai nyonso nasengaki yo apimelinga kaka se yo nazali malheureuse loboko na litama Zoto na susi fene palapenyo Okata vaccination ya susi Okoma sardineo Moto etikala na foto Kala tongo ekotana Ngae na kanape na kotanga Romayo epayo salina bisengo Oko kipete angama wanaga Kaweli nine
Otakana kande Salina bisembo oko kipete angama wananga